écoutez France Inter, il est 13h30, c'est comme tous les jours l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour Patrice.
Bonjour Claire Servageant.
Je ne demande même pas quel est le sujet du jour.
Et oui, au terme d'une semaine spéciale de 2000 ans d'histoire pendant laquelle nous avons rappelé tout ce qui l'a précédé, le début de la guerre, le 1er septembre 39, la drôle de guerre, la campagne de France, l'armistice demandé par Pétain le 17 juin, ben nous ne pouvions pas ne pas parler justement de ce fameux appel que le général de Gaulle avait lancé au micro de la BBC, non loin de l'endroit où nous sommes en ce moment à Londres. C'était il y a 70 ans, jour pour jour, le premier jour de la France libre.
This is London. The news from France is very bad.
Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Der siegreichen deutschen Truppen in Paris stand.
Ici la radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maréchal Pétain.
Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
Ici Londres.
The genius of France will rise again.
Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle.
L'honneur, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat.
Il était environ 18h à Londres, le mardi 18 juin 1940, lorsque le général de Gaulle entrait dans l'immeuble de la BBC. Arrivé la veille en Angleterre, celui qui avait été pendant quelques jours le sous-secrétaire d'État à la guerre dans le gouvernement de Paul Reynaud n'était plus rien. Paul Reynaud avait démissionné dans la nuit du 16 au 17 juin et son successeur, le maréchal Pétain, avait annoncé à la radio son intention de mettre fin à la guerre en demandant un armistice à l'Allemagne. Ce qu'allait dire de Gaulle à Londres le lendemain, c'était exactement le contraire. Convaincu que l'Allemagne n'avait gagné qu'une bataille, mais pas la guerre, il allait appeler les Français à la continuer. À 49 ans, j'entrais dans l'aventure comme un homme que le destin jetait en dehors de toutes les séries, avait écrit de Gaulle dans ses mémoires en se rappelant de ce jour où il entrait dans le studio 4C de la BBC, accompagné par une collaboratrice des services européens de la radio britannique, Elizabeth Barker.
Now here is a statement in French of great importance to our French listeners by General de Gaulle, who was undersecretary for war in Monsieur Paul Reynaud's cabinet.
Il arriva peu de minutes avant l'heure de l'émission en langue française. Je l'ai conduit au studio. J'avais l'impression qu'il ne voyait rien et personne au studio, sauf le micro. Il le fixait des yeux comme s'il voulait le dominer. Ou peut-être comme si ce petit objet métallique était le peuple français tout entier.
S'il vous plaît, général, j'ai besoin de quelques mots. Pour la sonorité.
La France, qui depuis de nombreuses années...
That's good, very good. Vous pouvez parler comme vous voulez.
Les chefs, qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat.
Éric Roussel, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est par ces mots que le 18 juin 1940, le général de Gaulle est entré dans l'histoire, ou plutôt, c'était les mots qu'il avait prévu de prononcer, car ceux que l'on vient d'entendre, vous le rappelez dans une biographie du général de Gaulle, n'ont jamais été diffusés, ils ont été censurés par le gouvernement britannique.
Oui, effectivement, ils ont été censurés par le gouvernement britannique, on le sait maintenant de façon à peu près certaine. Ça ne diminue d'ailleurs en rien les mérites du général, ça montre au contraire qu'il s'est heurté à des difficultés considérables. Alors ce qui s'est passé, on peut le comprendre d'ailleurs, c'est que le cabinet de guerre britannique a souhaité tout de même savoir ce que le général avait l'intention de déclarer à la BBC le soir. Comment cette communication a-t-elle eu lieu, on ne le sait pas très très bien. Le général de Gaulle a été interrogé sur ce point, notamment par Amouroux, quand il avait écrit son livre sur le 18 juin. Le général avait dit à Henri Amouroux, « De ma vie, je n'ai jamais communiqué un texte à personne. » Alors, c'est possible, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a déjeuné dans un club londonien avec Dove Cooper, le ministre de l'Information britannique, ce jour-là. Donc, même s'il ne lui a pas donné un texte, il est probable qu'il y a eu un échange d'informations. Et... ensuite, alors, il y a eu un tas de tractations, ce qui serait trop long d'évoquer. Et le cabinet de guerre britannique a exprimé de fortes réserves sur la version, et notamment sur l'attaque de ce que vous venez de rappeler. Et ce qui a conduit le général de Gaulle, devant les micros, a adopté une phrase plus neutre. Un gouvernement a été formé, il a demandé des...
Le gouvernement, c'est ça, voilà. A demandé à l'ennemi à quelles conditions il pouvait cesser le combat. Il faut expliquer pourquoi. Si nous sommes le 18 juin, Pétain a demandé l'armistice la veille, mais l'armistice n'a pas été négocié, et les Britanniques cherchent encore à ménager, on y reviendra, à ménager en fait le gouvernement, j'allais dire de Vichy, non, c'est pas encore Vichy, mais le gouvernement du maréchal Pétain. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que cet appel n'a pas été entendu par grand monde, il a été diffusé à 22h, et puis surtout pour les Français, De Gaulle n'est rien, il est pratiquement inconnu, et il ne pèse pas, si je puis dire, aussi lourd que le maréchal Pétain, encore à l'époque très populaire. On ne sait pas très bien qui est De Gaulle, personne ne connaît son nom, personne n'a jamais entendu sa voix, Éric Roussel.
Vous avez raison, le grand public ne connaît absolument pas De Gaulle, sinon, depuis très peu de temps, puisqu'il est entré dans le cabinet de Paul Reynaud, au fond de semaine auparavant, à un poste quand même assez secondaire, puisqu'il est sous-secrétaire d'État à la guerre. Il a d'ailleurs été nommé général de brigade à titre temporaire très peu de temps auparavant. Il était auparavant colonel. On sait qu'il avait été, d'ailleurs, que son avancement avait été bloqué en raison des idées particulièrement originales qu'il avait exprimées et que la hiérarchie militaire n'appréciait pas particulièrement. Bon, mais du fait même des campagnes pour l'arme blindée qu'il avait menées, il était tout de même connu des milieux journalistiques et de la classe politique. Et il y a une chose qui est intéressante qu'il faut souligner parce que ça préfigure en quelque sorte sa démarche le 18 juin, enfin, au début de la France libre. On sait que De Gaulle venait son milieu d'origine, c'est pas un mystère, c'est une droite assez traditionnelle. Et malgré tout, quand il lance cette campagne pour l'arme blindée et puis pour la constitution d'une armée de métier, il ne néglige de prendre contact avec aucune des nuances de l'opinion. Il voit tous les hommes politiques, enfin à peu près tous. Et ça, c'est quelque chose finalement qui annonce ce qui va se passer au début de la France libre.
Et jusqu'au président de la République, Albert Lebrun, qui lui disait un jour « Je connais vos idées ». C'était lorsque ce président de la République rendait visite en Alsace à l'armée française, dont un bataillon de chars, le bataillon de chars du colonel, il n'était que colonel De Gaulle, en novembre 1939. C'était 3 mois après le début de la guerre.
Le président de la République vient rendre visite aux troupes d'Alsace. Il arrive dans la zone du front où lui sont présentés les membres d'une escadrille qui s'est distinguée récemment par d'extraordinaires prouesses. Monsieur Albert Lebrun visite ensuite une division motorisée qui a pris part à une récente action.
Le président de la République, à son retour, a dit combien l'avait fortement impressionné la puissance de nos organisations, la résolution, le haut moral des troupes et des populations qui, à très juste titre, savent pouvoir s'en remettre à l'invincible force, à l'inégalable puissance de moyens de la fraternité d'armes franco-anglaise.
Et c'était un extrait d'un documentaire de l'ECPAD où l'on voit De Gaulle, personne ne cite son nom, les journalistes ne le font pas parce qu'on ne le connaît pas, mais on le voit en train de montrer au président Lebrun ses chars. Et c'est vrai qu'il était connu pour des idées, je connais vos idées, disait Lebrun. Rappelez-nous quand même en quoi il se distinguait, Éric Roussel, des autres militaires de l'époque, ses idées en matière de stratégie qui étaient évidemment très différentes de celles de l'état-major, et même des idées politiques sur les rapports entre l'armée et l'État et le gouvernement.
Oui, De Gaulle s'était affirmé très tôt comme un esprit puissamment original. Et il avait d'abord développé des idées sur la philosophie, en quelque sorte, non seulement de la philosophie du militaire, mais là, ça dépassait bien ce cadre, la philosophie de l'action, dans un livre qui s'appelait « Le fil de l'épée », et qui est sans doute son livre d'ailleurs le plus percutant. Et puis, indépendamment de ça, il avait été l'un des tout premiers à prendre conscience de l'importance de l'arme blindée. Donc il s'était livré une sorte de croisade, on peut employer le mot, pour imposer la constitution de ces fameuses divisions cuirassées qui vont faire défaut, même si les derniers gouvernements de la Troisième République avaient quand même essayé de combler le retard. Et il avait notamment... Il avait essayé donc de convaincre beaucoup d'hommes politiques, en négligeant personne, de l'utilité de ces divisions blindées. Et il avait eu un contact particulièrement étroit et bon, avec Paul Reynaud, qui est devenu donc président du Conseil en mars 1940. Et pendant toute la durée de l'avant-guerre, Paul Reynaud n'a cessé de servir de caisse de résonance, au fond, à De Gaulle. Ça paraît curieux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, De Gaulle est beaucoup plus connu que Paul Reynaud. Mais à l'époque, Paul Reynaud, par exemple, avait publié un livre qui s'appelait « Le problème militaire français », qui était en réalité décalqué complètement des idées de De Gaulle. De Gaulle ne s'en était pas formalisé. D'ailleurs, il n'était pas cité du tout. Mais ça veut dire que De Gaulle ne négligeait rien. Il mettait même son orgueil de côté, finalement. Pour faire avancer ses idées. Alors, vous avez fait allusion aux obstacles qu'il a rencontrés, et effectivement, s'il a été écouté par certains hommes politiques, et encore pas par tous, il avait couplé cette idée d'armée de constitution de division blindée avec l'idée de constitution d'une armée de métier. Alors ça, c'était quelque chose, évidemment, qui était difficile, le couplage était difficile à faire adopter par les milieux républicains.
Alors, Paul Reynaud, donc, vous le dites, est nommé, enfin devient président du Conseil, c'est comme ça qu'on appelait les premiers ministres à l'époque. Là, c'est le début de la débâcle. En mars, c'est pas encore le cas.
En mars, non,
mais
lorsque, la
lorsque Reynaud appelle le général de Gaulle, c'est le jour même où les Allemands percent les dernières lignes de défense françaises sur la Somme. De Gaulle est nommé général. Et il rentre dans ce gouvernement, un gouvernement qui se divise déjà pour savoir quelle attitude adopter vis-à-vis de l'avance allemande, et un gouvernement qui a à faire face à un personnage qui a joué un grand rôle, qui n'était pas membre du gouvernement, mais qui avait un rôle considérable, puisqu'il était chef d'état-major des armées, le commandant en chef de l'armée française, qui était le maréchal Weygand, Weygand, très opposé à De Gaulle, lorsque celui-ci, devenu sous-secrétaire d'État à la guerre, eh bien, lui proposait l'idée d'une défense, d'une poursuite du combat des Français en Bretagne.
Se replier en Bretagne. Vous délirez, mon vieux. Comment voulez-vous regrouper ce qui reste de nos armées et tenir un front sur plus de 200 kilomètres? Réveillez-vous, la guerre est perdue. Un militaire, comme vous, devrait le comprendre. Les Boches viennent de passer la Somme.
Oui, et après?
Après, c'est la Seine-et-Marne.
Et après?
Après, c'est fini.
Comment ça, fini? C'est une guerre mondiale, mon général. Elle va continuer avec d'autres moyens, d'autres nations. Les États-Unis finiront par rentrer dans la danse et l'Allemagne sera battue.
Pas l'hiver. Moi, je peux vous dire que quand j'aurai été battu, ici, les Anglais n'attendront pas 8 jours pour négocier avec le Reich.
Ce n'est pas le militaire, mais le ministre qui vous dit qu'il faut continuer le combat.
Vous me donnez des ordres. Vous. Je n'ai pas le temps de discuter politique avec vous, monsieur le sous-secrétaire d'État. Rentrez dans votre ministère et dites à notre président du Conseil que l'heure n'est plus à la stratégie, mais à la gestion de la catastrophe. J'ai bien l'honneur.
Ici, Londres.
France Inter vous parle.
J'invite tous les Français
aujourd'hui
à m'écouter
jusqu'à minuit
et à me suivre.
18 heures de programme.
Vive la France!
En direct de Londres.
Libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
On a entendu à l'instant tout à l'heure un extrait d'un excellent téléfilm sur l'appel du 18 juin montrant l'opposition entre De Gaulle et le général Weygand, le commandant-chef, qui avait quand même 3 étoiles de plus que lui, c'était le plus haut gradé. De Gaulle était juste général de brigade. Mais on voit bien l'opposition entre le politique et le militaire, en plus un militaire qui déteste les civils. « Je suis un mâle, le gouvernement est une femelle », disait Weygand un jour. Et c'est un conflit qui a duré d'une part entre le général en chef qui voulait l'armistice, rejoint par Pétain qui était aussi membre du gouvernement, et il y a de moins en moins de monde au fur et à mesure que les jours passent de cette débâcle pour défendre l'idée d'une poursuite des combats. Heureusement, il y a le président du Conseil, Paul Reynaud. Paul Reynaud qui a envoyé à 2 reprises De Gaulle à Londres le 9 juin et puis le 15 juin auprès de Churchill pour tester la volonté des Anglais, des Britanniques, nos alliés, de poursuivre le combat. Éric Roussel.
Oui, effectivement. D'ailleurs, Churchill avait déjà eu l'occasion de croiser le général de Gaulle lors du Conseil interallié et il avait été frappé, comme tous les Anglais d'ailleurs qui étaient là, par la personnalité de ce jeune général, parce qu'il était jeune encore à l'époque, et qui contrastait par son mordant, j'allais dire, avec les autres membres du cabinet. Il ne savait pas exactement, il ne faut pas aller trop vite, le rôle qui est devenu celui du général de Gaulle n'était pas du tout encore dans l'esprit de Churchill. Mais la personnalité, c'est vrai, au fond, Churchill avait décelé une personnalité proche de la sienne. Et Roland de Margerie, qui était le directeur de cabinet de Paul Reynaud, qui a assisté à la rencontre, dont on vient de publier les souvenirs que je viens de préfacer, dit « j'ai senti qu'ils se sont accrochés ». Et je crois que c'est bien ce que...
Churchill l'appelait le connétable. Il avait de la tendresse, de la tendresse, si on peut dire, mais beaucoup d'admiration, alors que Churchill, c'était lui aussi un personnage considérable par rapport à ce sous-secrétaire d'État, qui ne l'était même plus d'ailleurs, enfin qui ne le sera même plus. Parce que bon, les choses s'aggravent. De Gaulle est à Londres, lance de Londres d'ailleurs un dernier projet qui paraît complètement farfelu. Il est à Londres lorsque, le 16 juin, il allait rentrer à Bordeaux où se trouvait le gouvernement, il annonce à Paul Reynaud que on a l'idée d'une union franco-britannique, c'est-à-dire la France et l'Angleterre ne seraient plus qu'un seul et même pays.
Oui, c'est un projet tout à fait extraordinaire. Et le plus extraordinaire, c'est que le général de Gaulle l'a soutenu. Et ça, on le sait, puisque la seule chose qui marchait bien ce jour-là, c'était les écoutes téléphoniques. On a même les scripts. Et Roland de Margerie, qui avait aussi le général de Gaulle au téléphone, dit même que le général lui a dit « Dites à M. Paul Reynaud que s'il est d'accord, il sera ce soir Premier ministre de la France et de la Grande-Bretagne réunis. » Alors, il avait dit ça. Bien sûr, comme Churchill aussi avait soutenu ce projet, bon, ni l'un ni l'autre, qui étaient des gens très attachés, des personnalités très attachées à l'idée de patrie, de la grandeur de leur patrie, n'avaient aucun doute sur la possibilité, la faisabilité, comme on dirait aujourd'hui d'un mot affreux, de ce projet. Mais ils pensaient d'une part que c'était un signal fort qui serait donné aux Allemands. C'était d'ailleurs l'idée de Jean Monnet aussi, qui avait été l'apôtre de cette idée. Qu'il avait accouché, en quelque sorte. Et puis, c'était aussi, pensait-on, mais là, c'était une erreur, c'était une façon de donner une sorte de ballon d'oxygène à Paul Reynaud. Mais en réalité, le projet arrivait trop tard. Mais enfin, De Gaulle, il n'y a aucun doute.
On est le 16. Mais Reynaud présente ce projet à son gouvernement, dont De Gaulle est absent, puisqu'il est encore à Londres. Il va revenir à Bordeaux. Et puis, le gouvernement voit balader ce projet
qui arrive trop tard.
Totalement inepte. De Gaulle rentre dans la nuit du 16 au 17. Il revient en avion à Bordeaux, où se trouve donc le gouvernement. Et là, il apprend que Paul Reynaud a démissionné, qu'il est remplacé par le maréchal Pétain, et tandis que à Londres, au micro de la BBC, Churchill donc exprime toute la tristesse que lui inspire l'effondrement militaire de la France, mais aussi l'espoir de la voir se ressaisir.
The news from France is very bad.
Les nouvelles venant de France sont très mauvaises, et je suis très peiné pour le courageux peuple français frappé par un si grand malheur. Rien n'altérera nos sentiments à son égard et notre conviction que le génie de la France s'élèvera à nouveau.
Souris-moi, vie, dis-moi, bonne chance, gentiment, tendrement, de tout cœur. Ces deux mots parfumés d'espérance suffiront à me porter bonheur.
Alors on a entendu Éric Roussel, on a entendu Churchill le 17 juin de Londres dire à quel point il est affligé par la situation de la France, 17 juin qui est une journée considérable puisque ce jour-là Pétain est devenu chef du gouvernement français. Il va lancer dans les heures qui suivent un appel à l'arrêt des combats et demander l'armistice aux Allemands, tandis que De Gaulle, lui, il est parti. Il est parti d'une manière rocambolesque, cette fois-ci pour de bon. Il part en Angleterre d'une manière absolument insensée. Il prend l'avion personnel de Churchill. Il est accompagné par le général Spears, qui était l'envoyé de Churchill auprès du gouvernement français. Et il part. On est à la veille du 18 juin. C'est assez étonnant cette façon dont a été raconté ce départ de De Gaulle vers l'Angleterre.
Alors il y a deux versions. Il y a la version du général De Gaulle qui dit dans ses mémoires le départ eut lieu sans romantisme et qui n'entre pas dans les détails. Et puis la version du général Spears, qu'il faut le préciser, s'était brouillé avec le général pendant la guerre du fait d'autres épisodes et qui donc dans ses mémoires a sans doute donné une version pas toujours très bienveillante des choses. Donc la vérité, à mon avis, se trouve un petit peu à mi-chemin des deux versions.
On dit qu'il a sauté dans l'avion, oui. Même à la dernière minute, pour se cacher, parce qu'il était, en fait, il risquait d'être arrêté.
Pas sauté, mais il a certainement pris des précautions. D'ailleurs, il le dit dans une lettre à Churchill, il dit « j'ai tout de même pris quelques précautions ». Et la vérité, c'est qu'il risquait quand même d'être arrêté, compte tenu de l'animosité que lui portait Weygand. Il ne faut pas oublier que quelques heures plus tard, Weygand va faire arrêter Mandel. Donc pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas fait arrêter le général de Gaulle, dont il connaissait les idées et les projets, en plus? Parce que de Gaulle avait raconté à un certain nombre de gens ce qu'il avait en tête. Et un certain nombre de...
Mais qu'est-ce qu'il a en tête, justement, en partant?
Il a de parce faire quelque chose...
Il ne fuit pas parce qu'il a peur, il faut rappeler.
Comment?
Est-ce qu'il a déjà l'idée de ce que deviendra la France libre?
Absolument. Il y a un épisode tout à fait extraordinaire. Sur le chemin de l'aéroport, le matin du 17 juin, quand il part de Bordeaux, et pour l'aéroport, il rencontre Jean Missler. Jean Missler, qui était le président de la parlementaire radicale, et qui sera plus tard secrétaire perpétuel de l'Académie française, et qui est alors président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et De Gaulle lui dit... Retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Allemagne a perdu la guerre. C'est vraiment extraordinaire. On est sûr que c'est vrai, puisque Missler est allé à Vichy après. Donc ça, il ne l'a pas inventé.
Et De Gaulle arrive à Londres donc dans la journée du 17. Là, il apprend que Pétain a lancé cet appel à la cessation des combats, à un armistice. On en a parlé hier dans cette émission avec les Allemands. Et là, De Gaulle veut réagir, demande à pouvoir lui-même parler le lendemain, donc le 18, à la radio de Londres. Et là, il est soutenu par Churchill quand même. Ah oui. Churchill a joué un rôle énorme au début de la France libre.
Il faut souligner que dès qu'il arrive en Angleterre, il déjeune dans un club, le Royal Automobile Club. Immédiatement après, il voit Churchill. Et c'est à l'issue de cette rencontre avec Churchill que le principe d'une émission, d'un discours sur les ondes de la BBC est acquis, en quelque sorte. Donc on peut admettre que dès ce moment-là, De Gaulle commence à penser à ce qu'il va écrire.
Alors le principe, il écrit dans la journée du 18. Alors ce qui se passe, c'est qu'il arrive au micro, dans le studio de la BBC, qui n'est pas très loin de l'endroit où nous nous trouvons, donc avec un discours en main, ce discours qui a été effectivement censuré.
Oui.
C'est ce discours qui était très désobligeant, entre guillemets, tout simplement parce que dans le gouvernement britannique, il y avait notamment Lord Halifax qui considérait qu'il était trop dur vis-à-vis d'un régime de Vichy dont on ne savait pas très bien ce qu'il ferait encore.
Il y avait Halifax et puis il y avait des partisans de ce qu'on disait à l'époque de l'appeasement. Il y avait aussi, si vous voulez, une certaine incertitude sur le comportement de ce gouvernement de Bordeaux, dont on n'attendait rien de bon, mais il y avait le problème de la flotte, la flotte française, qui préoccupait beaucoup les Britanniques et qui voulait malgré tout quand même de se comporter avec une certaine prudence. Et c'est ce qui explique cette censure qui a été imposée au général de Gaulle, ce qui ne l'a pas empêché, un peu plus tard, de diffuser par voie de presse l'appel sous la forme que l'on
a entendu au tout début. Voilà. Alors, cet appel... Et puis, il ne fallait pas se fâcher, selon certains Britanniques, avec la France pour un petit général, au fond, qui n'était pas grand-chose. D'ailleurs, c'est tellement extraordinaire, c'est que cet appel qui a été enregistré, diffusé à 22h le 18 juin, cet appel, on n'en a pas gardé l'enregistrement, il n'existe pas. On est en train de célébrer aujourd'hui un événement qu'on ne peut plus entendre.
Il a dû vraisemblablement quand même être enregistré, sinon on n'aurait pas pu le repasser. Oui. Puisqu'on a dû,
L'enregistrement n'a pas été conservé.
Non, peut-être qu'il se trouve quelque part, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, jusqu'à présent, on ne l'a pas trouvé.
Alors, il a été quand même... On voulait ménager la France jusqu'à la signature de l'armistice du 22 juin. Donc, De Gaulle a été interdit d'antenne jusqu'à ce jour du 22 juin, lorsqu'il s'est exprimé à nouveau à la radio pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, on avait gardé ce discours.
Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
C'est assez impressionnant et même émouvant d'entendre ce discours 70 ans après, qui était prononcé pas très loin d'ici, le discours du 22 juin, qu'on confond parfois avec l'appel du 18. Et le discours d'un homme seul, vous le rappelez, Éric Roussel, dans vos livres, il lance un appel comme ça au rassemblement pour continuer le combat. Il lance un appel, on a raccourci ce discours, mais à tous les officiers qui seraient en France, ou qui en Angleterre, ou qui viendraient s'y trouver. Et en été, il n'a personne. Churchill, il crée un comité national français, de Gaulle, et Churchill lui dit « Vous êtes tout seul, eh bien je vous reconnais tout seul ».
Oui, il est effectivement, ça tient au fait effectivement qu'il est un pion sans grande importance au départ. Il fait partie de ce gouvernement. Mais le fait quand même qu'il ait fait partie de ce dernier gouvernement, même sur un strapontin si on peut dire, de ce dernier gouvernement régulier de la Troisième République, veut lui donner un titre. Et ça a été quelque chose de très important. Il y a même des gens qui se sont ralliés à lui par la suite parce qu'il avait été membre de ce gouvernement de la Troisième République.
Mais au début, personne.
Personne,
il lance un appel. Non, mais je veux dire, oui. Quand je dis personne, par exemple, évidemment, il s'attend à ce qu'il y ait des pointures, entre guillemets, si on peut dire, dans l'armée, personne ne le suit. Il y a le général Catroux, qui est un général à 5 étoiles, et qui va se mettre aux ordres, en quelque sorte,
d'un
général
à 2
étoiles.
Un peu plus tard.
Mais aucun responsable militaire, aucun haut responsable politique ne le rejoint. Ce sont essentiellement des jeunes. D'ailleurs, c'est très émouvant. Et puis, il y a ces marins de l'île de Sein qui partent presque tout de suite.
Mais
Parce que personne ne l'a entendu aussi.
Il faut remarquer aussi une chose qui je crois, est importante, c'est que parmi les quelques personnes qui viennent, qui ne sont pas effectivement très très nombreuses, il y a des représentants de toutes les familles spirituelles, donc les familles politiques. Il y a pas mal de gens de droite, finalement.
Daniel Cordier, par exemple.
Et puis dans l'entourage du général de Gaulle, à Londres, au début, il y avait pas mal de gens d'une droite assez dure, même. Et puis, il y a aussi des gens qui viennent... Il y a, par exemple, Veille Curiel, qui est un socialiste, qui appartient à l'aile plutôt gauche du Parti socialiste. Il y a Georges Boris qui va arriver, qui, lui, est un peu de la même mouvance. Il y a des gens, il y a des juifs, il y a des gens qui sont d'Action française. Donc, on va trouver à peu près toutes les familles politiques. Et c'est là où on voit la grande intelligence de Gaulle, donc, qui est un homme qui est venu d'une droite traditionnaliste, et qui a l'intelligence d'assumer en quelque sorte toute l'histoire du pays, parce que c'est ça qui est...
À partir de quand et à cause de quoi, Éric Roussel, la France libre, comme elle s'appelle dès le mois d'août, prend de l'importance ?
Assez vite. Au fond, après l'épisode épouvantable de Mercel Kébir, je crois que c'est ça, c'est le tournant.
Oui, la destruction
de la flotte. Et là, ça marque les Anglais, parce que le général a couvert, en quelque sorte, même à contre-cœur, cette opération. Mais à partir de ce moment-là, il est devenu, pour les Anglais, quelqu'un qui a marqué sa solidarité. De toute façon, il va y avoir, d'ailleurs, pendant tout l'été 1940, une sorte de lune de miel entre De Gaulle et Churchill.
Oui, mais ça lui a même coupé quand même beaucoup de gens.
Oui, mais... Alors après ça, ça va se gâter, mais pendant quelques semaines, il y a quelque chose même d'assez émouvant. Il se voit quasiment tous les jours. Il y a vraiment une entente assez étonnante.
Merci Éric Roussel de nous avoir rappelé donc ce moment que tout France Inter est en train de commémorer à Londres aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie de De Gaulle publiée chez Folio, qui vient de publier chez Folio et beaucoup plus importante chez Gallimard, ainsi que 16 juin 1940, Le naufrage. Le 16 juin, c'était le jour où Pétain a pris le pouvoir en 1940, un livre formidable publié chez Gallimard. Vous êtes également l'auteur de la préface du livre La liberté souffre violence d'Elisabeth de Miribel, publié aux éditions du Cerf. Je signale également l'apparition de nombreux livres sur ce sujet que l'on peut retrouver sur notre site franceinter.com ou par téléphone au 3230, 34 centimes la minute. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm L'Appel du 18 juin de Félix Olivier avec Michel Villermoz dans le rôle du général de Gaulle, un film de France Télévisions. C'était 2000 ans d'histoire, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Hirsch-Kobilac. Merci à Pascal Baldassari, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Merci au public aussi d'être venus très nombreux aujourd'hui à l'Institut français de Londres. Merci à tous. Dans quelques instants, La tête au carré de Mathieu Vidard, toujours en direct de Londres aujourd'hui.